Merci d'écouter les programmes de RLP 102.3 et d'être fidèle à l'émission La Clé des Champs. Aujourd'hui, comme nous le faisons parfois, nous allons partir à la découverte d'un autre univers, d'une autre culture, d'autres croyances et bien sûr, d'une autre musique. Après quelques incursions en Amérique latine, c'est l'Amérique du Nord que nous allons vous conter ce soir, avec la civilisation des grandes plaines, mais aussi les agriculteurs, les chasseurs, les cueilleurs, les pêcheurs, sans oublier cet animal noble et fier qui restera à jamais l'emblème de l'Amérique et de toute une civilisation, le bison. Enfin, nous parlerons aussi des tuniques bleues. Alors, pour commencer notre grand voyage, il nous fallait, comme l'aurait si bien dit notre ami Monsieur Eddy, un indicatif un peu spécial. Un indicatif Grande Prairie. Quand ils auront coupé le dernier arbre, quand ils auront abattu le dernier bison, et quand ils auront pêché le dernier poisson, alors les visages pâles s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Ainsi parlait le sage, le grand chef de la tribu des Lakota, des Sioux qui vivaient sur la terre du Dakota, celui qu'on appelait bison assis, en anglais Sitting Bull.
Hey, 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 hey
L'histoire du peuplement de l'Amérique aurait commencé quelques 40 000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb. C'est à cette époque que des hommes venant d'Asie se seraient installés en Amérique. Un pont de glace reliait en effet la Sibérie à l'Alaska. C'est donc tout naturellement, tout en poursuivant des troupeaux de mammouths, que des groupes de chasseurs nomades sont passés sans le savoir de l'Asie à l'Amérique. Au fil des millénaires, les Indiens, comme ils furent surnommés plus tard, s'installèrent partout, du nord au sud du continent américain. Avant l'arrivée des Blancs, on estime que 7 à 8 millions d'Indiens occupaient l'Amérique du Nord. Tous les vestiges archéologiques retrouvés ici et là attestent de l'ancienneté de l'occupation du continent. Ici, comme ailleurs, on retrouve les mêmes signes de l'évolution de l'homme, comme par exemple le façonnage des récipients, les peintures rupestres représentant les scènes de la vie quotidienne, l'expression par signes chez les peuples qui n'écrivaient pas, ou bien encore les outils primitifs mis à la disposition par la nature, comme la pierre, les os ou encore le bois taillé. Et puis, au fil du temps, les techniques ont évolué. Comme tous ceux des peuples des autres continents, les hommes de l'Amérique précolombienne connaissaient aussi les arts, et notamment la musique.
Hey, hey, hey.
Depuis des millénaires, les vastes territoires qui s'étendent du golfe du Mexique jusqu'à l'Alaska sont occupés par des centaines de tribus indiennes. Sur ce territoire très varié, dans ses climats et dans sa géographie, les diverses tribus indiennes ont des modes de vie et d'alimentation en relation avec leur environnement. On pratique la pêche et la chasse au nord-ouest, la chasse et l'agriculture au nord-est, tandis que dans les grandes plaines, le bison est un élément essentiel. Les cultures et les religions, ainsi que les langues, sont également très diverses. Il existe cependant un point commun entre toutes ces cultures. C'est le lien étroit avec la nature qu'elles exploitent et dont elles tirent l'essentiel de leur existence. Ainsi, dans leur musique, on trouve une multitude de danses célébrant la nature, les éléments ou encore les animaux. Vous écoutez une émission de la série La Clé des Chants consacrée à l'Amérique du Nord, à son histoire, à sa culture et bien sûr à sa musique. On peut nettement tracer trois zones culturelles distinctes. L'Ouest, qui ignore totalement l'agriculture, les Indiens y vivant exclusivement de cueillette, de chasse et de pêche. L'Est qui combine ces activités avec un peu de culture du maïs. Le sud-ouest des Pueblos, enfin, où les techniques agricoles sont fort développées. Les civilisations de cette dernière ère se rattachent à bien des égards aux civilisations mésoaméricaines dont elles représentent en quelque sorte les avant-postes septentrionaux. voici une danse pour célébrer la moisson. Le long de la façade du Pacifique, de l'Alaska à la Californie centrale, l'économie traditionnelle reposait essentiellement sur les ressources halieutiques. À plusieurs reprises, dans l'année, mais surtout au printemps, période du frais, tous les grands fleuves et les rivières étaient littéralement envahis de saumons. À cette occasion, les Indiens constituaient d'énormes stocks qui devaient leur durer toute l'année. Ces groupes exploitaient aussi les ressources maritimes, ramassant les coquillages ou s'adonnant à la chasse à la baleine en haute mer. Plus au sud, les Indiens ramassaient des glands, qu'une longue préparation rendait comestibles, et qui, associés à la chasse, étaient à la base de l'économie.
Ya nai na, 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 ya nai na
Les Indiens des plaines sont justement célèbres pour avoir connu l'une des économies les plus spécialisées du monde. Nourriture, habitat, vêtements reposaient presque exclusivement sur le bison. Mais il ne faut pas oublier qu'un tel mode de vie était fondé sur le cheval, introduit, lui, par les Espagnols. C'est grâce au cheval, en effet, que le bison était toujours à la portée des chasseurs. En retour, il imposait des contraintes propres à l'élevage. Notamment, la nécessité de contrôler les bons pâturages été comme hiver, et donc la nécessité conjointe de se déplacer. Le bison, animal unique et indispensable aux chasseurs, le bison, animal sacré et vénéré comme un dieu, le bison à lui tout seul méritait bien lui aussi, comme l'ours, la pluie ou l'arc-en-ciel, une danse pour l'honorer.
Yeah. na hele na ya hayo kena hayo kena hayo hayo kena
Nord-Ouest, on se dispersait à partir du printemps pour exploiter au mieux les sites de pêche le long des rivières. Et en hiver, on se rassemblait à nouveau pour habiter ensemble dans de grandes maisons communes. Dans la région subarctique, le schéma inverse prévalait. On se disséminait à travers le territoire durant tout l'hiver, soit 10 à 11 mois sur 12, et l'on se rassemblait seulement au cœur de l'été. Les économies de l'Est étaient plus diversifiées. La chasse aux cervidés et aux castors, ainsi que la pêche, étaient complétées par un peu d'agriculture. L'ordre social était alors toujours compris en termes saisonniers. Prenant d'emblée, pour cette raison, la dimension du ciel, une dimension cosmologique. Son de Troyes, Radio Libre en Périgord, vous écoutez actuellement l'émission La Clé des Chants, l'émission consacrée à la musique, à ceux qui la font, à ceux qui l'écoutent et à ceux qui la vivent. Mmh. Et ce soir, eh bien, je vous amène avec moi en Amérique du Nord, de l'Alaska jusqu'au Golfe du Mexique, à la découverte de ce fabuleux continent, de sa culture, de sa musique et de son histoire. L'on ne peut pas parler de la culture de l'Amérique du Nord sans parler des chamans, ou des hommes médecine, comme on les appelait parfois. Bénéficiaires privilégiés de pouvoirs personnels, accordés à la faveur d'un rêve ou d'une vision par des esprits protecteurs, les chamans ont reçu une chanson leur permettant de guérir une maladie précise. Sans doute est-ce en théorie une improvisation, puisque les paroles auraient été enseignées par l'esprit lui-même. Mais en fait, le texte, très court, se conforme à des prototypes traditionnels, et les attitudes restent classiques. Souffler sur le malade, sucer le mal à travers son corps, réincorporer l'âme. Scandé par le hochet de calebasse ou de vannerie, la chanson conclut que le patient est sauvé. Le recours au symbole est une constante, que ce soit dans les chansons des chamans, les guérisseurs, à des fins thérapeutiques ou dans les prières rituelles bénéfiques. Ils sollicitent les montagnes, encadrant l'horizon. Les esprits, confondus avec les sommets, règnent sur les diverses espèces végétales ou animales, ou encore sur les minéraux. Les points cardinaux, les vents et les couleurs leur sont apparemment associés. Ce mode de vie ancestral, tribal et en symbiose totale avec la nature, et cela depuis des millénaires, ainsi que la richesse et la diversité de toutes les cultures qui le composent, vont tragiquement disparaître au XIXe siècle, à jamais bouleversés par l'arrivée des hommes blancs.
De la terre retentissent des cris de guerre, debout sur leurs étriers, où les aigles noirs vont charger de toutes ces tribus guerrières, de la première à la dernière. Nul ne m'arrachera de toi, par la ruse ou par le combat. Cris, tambour et masque de guerre, oh. bras, je ne tremblerai pas pour toi. Sur les montagnes et dans les plaines de toute la terre américaine, nous promènerons notre amour du premier jusqu'au dernier jour. De toutes ces tribus guerrières, tu es la princesse héritière. Nul ne t'arrachera de moi, par la ruse ou par le combat. Cri tambour et masque de guerre envahissent toute la terre. Tant que tu seras dans mes bras, je ne tremblerai pas pour toi. Traverseront les plaines dont tu deviendras la reine, et nous franchirons les quais de tous les torrents déchaînés. Et les soirs de lune pleine, nous irons voir aux fontaines connaissent les sorciers, les vieillards et les renards argentés. Cri tambour et masque de guerre envahissent toute la terre. Tant que tu seras dans mes bras, je ne tremblerai pas pour toi.
En avril 1513, une vingtaine d'années après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, Juan Ponce de León accoste sur les terres de l'actuelle Floride. En 1534, Fortun Jiménez découvre la péninsule de Basse-Californie, dont Hernán Cortés fait l'exploration en 1539. En 1534 également, Jacques Cartier explore le golfe du Saint-Laurent et les terres qu'il nomme Canada. De 1539 à 1542, Hernando de Soto, partant de l'est de la Floride, monte une expédition à l'intérieur des terres et découvre le Mississippi. Durant les XVIe et XVIIe siècles, l'intégralité du continent américain est à peu près explorée et conquise principalement par les Espagnols, les Français et les Anglais. depuis des millénaires, ces vastes territoires qui s'étendent du golfe du Mexique à l'Alaska sont occupés par des centaines de tribus indiennes. Elles ont leur propre culture, leur mode de vie et ont laissé de nombreuses traces archéologiques. Ces populations vont être considérablement perturbées par l'arrivée des colons européens, car ils apportent avec eux de nombreux virus, grippe, variole, coqueluche ou encore rougeole. Si les Européens sont plus ou moins résistants à ces maladies, les Indiens ne sont quant à eux pas du tout immunisés. Selon les régions, 10 à 90% de la population indienne est décimée. De plus, la pression coloniale et démographique pousse en masse les Indiens dans des réserves, limite leur territoire de chasse et décime leur principale ressource, le bison. Cela conduit à des famines particulièrement meurtrières. Les Amérindiens, dont la population est estimée entre 7 et 9 millions au début du XVe siècle, ne sont plus que 250 000 en 1890. À partir de 1776, la guerre d'indépendance va opposer les 13 colonies à l'Angleterre. Victorieuse, l'Amérique obtient en 1783 son indépendance, ainsi qu'un vaste territoire bordé par le Mississippi à l'ouest. Peu après, en 1803, l'Amérique achète à la France la Louisiane, appelée ainsi en l'honneur de Louis XIV, pour 15 millions de dollars. Puis, en 1819, l'Espagne cède la Floride sous la pression militaire et démographique. En 1845, l'annexion de l'État indépendant du Texas par les États-Unis provoque une guerre contre le Mexique. Victorieuse en 1848, l'Amérique est en position de force et négocie l'achat de près de 40% du territoire mexicain. En 1846, le territoire de l'Oregon est annexé à la faveur d'un traité avec l'Angleterre. Enfin, en 1867, l'expansion continentale s'achève avec l'achat de l'Alaska à la Russie.
One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, love is a shining dollar, bright as a church bell's chime, gambled and spent and wasted and lost in the dust of time. Ooh, 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 ooh. One silver dollar, changing hearts, changing lives, changing hands.
La rivière sans retour, la bien nommée, chantée ici par Marilyn Monroe. Car c'est bien une rivière sans retour, une rivière de sang et de larmes, qui a emporté dans sa crue la grande civilisation des plaines. Quand ils auront coupé le dernier arbre, quand ils auront abattu le dernier bison, et quand ils auront pêché le dernier poisson, alors les visages pâles s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Ainsi parlait le sage, le grand chef de la tribu des Lakota, celui qui fut un des principaux résistants à l'avancée inéluctable de l'armée américaine. Celui qui fut le grand vainqueur de la bataille de Little Big Horn. Celui, enfin, qui fut exhibé comme un animal de cirque dans le spectacle d'un certain William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill.
Sa mère dansait dans les bars, imitant Gin Arlo. Son père lançait des poignards au cirque à Buffalo. Puis un jour on lui a dit « Go West !» Et il a pédalé de New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors il a usé ses coudes à frotter les comptoirs avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Le long de 107 boulevards, bras dessus, bras dessous, ils perdaient leurs derniers dollars dans les machines à sous. Un jour Benjamin Shankar, le cousin ou le frère du type qui joue du sitar à la cour d'Angleterre, a gagné au dé le droit d'être un ensonamant. Ils sont allés vivre à Troyes dans son appartement. Elle ramenait des voyageurs, des collégiens timides, qui pouvaient faire $2 l'heure quelques polaroïdes. Ses deux amants dans la cuisine pour ne pas qu'ils regardent. En 2 mois, ils jouaient tout Gershwin sur des verres à moutarde. Ils ont fait du musical déguisé en hindou. Elle dansait en babydoll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sous le capot d'une Dodge ou Cadillac. Il a ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis ils ont continué leur vie d'hindou errant. Et puis il est retourné vivre chez ses parents. Sa mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Son père avait tué son aide au cirque à Buffalo.
Et c'est sur cette piste de cirque du côté de New York que se termine ce programme. C'était une émission de la série La Clé des Champs et vous étiez en compagnie d'Eric. Ce soir, RLP était monté sur ses grands chevaux pour vous offrir l'Amérique.